Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Depuis une quinzaine d'années, Christian Clos parcourt le monde à pied, en kayak, à voile ou à cheval, à la rencontre des terres les plus extrêmes et les moins connues. Dans cette émission Regarde ailleurs, Christian nous présente son parcours et nous parle de son métier d'explorateur. Bonjour Christian.
Christian Clos, explorateur, auteur, je questionne le monde au travers d'expéditions un peu partout pour essayer de comprendre ce qui représente sur place et dans ces milieux les plus complexes, les plus intrigants, les déserts, les montagnes, les zones désertiques, froides ou chaudes, pour essayer de comprendre comment nous, humains, on est capable de s'adapter à ces milieux et de pouvoir y créer une autre vie en essayant non pas de transformer le milieu à notre image, mais de transformer notre vie à leur image.
Qu'est-ce que c'est qu'un explorateur? Comment tu définirais ça?
Un explorateur, c'est quelqu'un qui repousse des limites. Il y a une connaissance et on cherche à faire un pas de plus dans cette connaissance. Et quand on commence à creuser les choses, on constate qu'il n'y a pas un domaine où on connaît tout. Et quand on a la prétention de connaître tout sur tout, là on est mort.
Mais on est explorateur ou on le devient? À quel moment est-ce que tu t'es dit, bon allez, j'assume ce mot, je suis un explorateur? T'as fait une école, un bac plus 2 explorateur? Parle-moi un peu de toi, ton parcours, ton cheminement personnel qui a fait que tu te positionnes aujourd'hui comme un explorateur.
Alors, docteur en exploration, bac plus 18. Non, c'est vrai que c'est un mot qui à la fois rappelle le passé. C'est-à-dire, quand on parle d'explorateur, on imagine toujours les grands explorateurs, les Magellan, les Colomb et tout. Puis on a l'impression qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. En oubliant une petite chose, c'est que tous ces grands noms d'exploration ne sont devenus des grands noms que parce qu'ils ont réalisé des choses qu'aujourd'hui, on peut palper concrètement. Mais à l'époque, quand ils sont partis, tout le monde pensait que c'était des fous. Comme aujourd'hui, quand on part, on pense qu'on est des fous. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation d'explorateur. Il y a la capacité de se questionner. Donc moi, j'irais mon parcours, il est comme beaucoup de monde. J'ai eu un parcours classique, scolaire, métier, avec le plaisir du voyage, l'envie du voyage. J'ai la chance d'être né dans une petite vallée en fin fond de la Suisse avec des montagnes autour. Donc je passais mon temps dehors, dans la forêt, dans les montagnes. Donc le goût du voyage est venu très naturellement. Mais je voyageais comme tout le monde, en aventurier, on va dire, et sans aucune connotation négative sur ce mot. On aime partir, on aime voyager. Puis un jour, on commence à réaliser que dans nos voyages, il y a des choses qu'on comprend moins bien, qui questionnent, qui sont pas comme on imaginait. On pense connaître un endroit parce qu'on a lu des choses ou qu'on a entendu des choses. Puis on arrive dans cet endroit, on constate que c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Et donc là, la transformation s'opère. On commence à réaliser que si on ne cherche pas à comprendre par nous-mêmes un certain nombre d'éléments, on va en perdre pas mal de choses. Si on ne regarde qu'au travers du regard de ceux qui ont déjà été et qui racontent, il y a toute une partie qui n'est pas réaliste. Parce que chacun interprète les choses par rapport à une manière qu'il a de voir les choses. Donc on commence à comprendre ça et on se transforme petit à petit. Et puis pour ceux qui ont envie de créer une démarche, on devient explorateur. Et donc à partir de là, on doit se questionner, maintenant je veux être explorateur, très bien, qu'est-ce que ça représente? Et donc il faut reprendre son bâton de pèlerin, retourner peut-être à l'école, peut-être en tout cas dans les bibliothèques, apprendre le plus possible, savoir ce qu'on connaît, parce que finalement, explorateur, c'est repousser une connaissance. Donc déjà, il faut savoir où en est l'état de cette connaissance et la connaître suffisamment pour savoir tout ce qui manque. Avec une notion compliquée, c'est que l'exploration, c'est forcément aller chercher des choses qu'on ne sait pas encore. Donc c'est compliqué parce que comme on ne sait pas encore cette chose-là, on ne sait pas forcément dans quelle direction il faut aller la chercher. Donc il y a plein de moments où on part, on cherche, on quête. Souvent on revient avec pas grand-chose de neuf. Puis tout d'un coup, un jour, il y a des petites choses, des pousses qui se mettent par-ci par-là. Et on commence à construire une nouvelle connaissance qui repousse ce qu'on connaît. Et puis le but de l'explorateur, et c'est pas forcément toujours évident, c'est pas d'être soi-même celui qui a trouvé le nouveau. Alors ça peut être ça. Mais c'est surtout de laisser une trace, d'écrire des rapports scientifiques, des livres, peut-être de faire des films aujourd'hui, pour que le prochain qui va partir puisse repartir de cet état de connaissance et faire le pas suivant. Donc c'est une transmission.
Fais-moi la différence entre le voyageur et l'explorateur.
Alors c'est très simple, c'est le voyageur, l'explorateur, l'aventurier. Ce qui les définit, c'est que le voyageur et l'aventurier, ils partent d'abord pour eux. Ils partent pour se découvrir et accessoirement découvrir un peu l'entourage qui les représente dans ce qu'ils font dans leur voyage. L'explorateur, il part peut-être aux mêmes endroits, il va peut-être faire la même manière de voyager, il va marcher, il va faire du vélo, je ne sais pas, mais il va chercher à comprendre quelque chose d'extérieur. Donc il cherche plutôt à apporter une nouvelle connaissance à l'humanité, toute proportion gardée, hein, c'est sans aucune prétention, mais dans l'envie de faire comprendre quelque chose de neuf, là où l'aventurier va plutôt d'abord se découvrir lui-même.
Donc on va revenir un peu en arrière dans ton itinéraire personnel et on va parler de cette première exploration. Donc comment est-ce qu'elle est née? Quelle était-elle? Vers quoi est-ce que tu as voulu pousser ta curiosité?
La première exploration, elle est venue tard. C'est-à-dire que pendant 28 ans pratiquement de ma vie, j'ai voyagé pour voyager. Donc à 16 ans, je prends mon premier billet d'avion pour partir seul 2 mois au Canada, aller dans les parcs du Canada faire du canoë. Ensuite, je pars dans les fjords norvégiens. Le voyage devient de plus en plus présent. Je pars dans les montagnes du monde. Voilà. Mais je voyage parce que j'ai envie de partir, de voyager, de découvrir le monde. Non pas pour fuir quelque chose, mais simplement parce que le monde est vaste et qu'il y a plein de choses à y voir. Et le déclic, c'est vraiment le Népal 1999, où le Népal, tout le monde connaît, on lit des livres, on a voilà. Et je pars pour faire un 8000 avec une amie, et en cherchant ce 8000, on constate que il y a plein d'endroits sur lesquels on trouve pas de cartes, pas d'informations, pas de données. Donc on décide de transformer le voyage pour faire un tour du Népal à pied plutôt que d'aller faire un sommet. Et là, j'arrive dans certaines zones du Népal, notamment l'extrême ouest, où tu poses ta tente et t'as des dizaines de gens du village qui sont à la queue leu-leu derrière ta tente pour ouvrir et fermer la fermeture éclair de ta tente. Puis ensuite venir voir tes vêtements, ta barbe, tes cheveux, toucher. Petit à petit, tu réalises comme un CV, voilà, ces gens-là n'ont jamais vu d'homme blanc.
T'es où là? Dans quelle partie du Népal? Dans le Dolpo, c'est ça?
On est vraiment à l'extrême ouest du Népal, encore plus loin que le Dolpo, plus loin que le Mustang, voilà, dans une zone où à l'époque il y avait très peu de monde qui allait. Et on est dans certaines vallées, on est les premiers hommes blancs à rentrer. Alors attention.
Comment on y va dans ces vallées? Donc là, il faut prendre son sac et marcher, quoi, suivre un cap et on y va, on avance sans savoir sur quoi on va tomber.
Voilà, là, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de métro, c'est sac à dos et on marche. Et on marche et on arrive dans des endroits comme ça. C'est-à-dire qu'il faut, accepter l'exploration. Nécessite forcément d'aller dans des zones qui ne sont pas encore connues, donc forcément un peu compliqué d'accès, sinon on serait déjà connu et tout. Donc il faut accepter une certaine difficulté, il faut accepter un certain travail physique. On va dans des endroits qui sont forcément complexes, soit très froid, soit très chaud. Il faut souvent se déplacer dans des manières non motorisées parce que là où on pouvait accéder avec des véhicules et autres, c'était facile d'y aller. Donc voilà, ça demande une acceptation de se confronter concrètement au terrain. Mais c'est une confrontation qui est plutôt sympathique parce qu'elle nous permet de mieux le comprendre, parce qu'on est obligé d'y passer du temps, du coup ça prend forcément des semaines, des mois, et donc on se transforme petit à petit par rapport à ce que nous offre le terrain. Et voilà, au Népal, dans cet endroit, on y avait été à pied, on a passé 6 mois, faire des milliers de kilomètres, des centaines de milliers de mètres de dénivelé pour arriver dans ces zones. Et là où il ne faut pas confondre cette nuance de dire, voilà, ils n'ont jamais vu d'homme blanc, ça ne veut pas dire qu'ils ne savaient pas que ça existait. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà entendu parler, ils ont des gens qui s'étaient déplacés, un professeur, un ancien Gourka, ces fameux soldats de l'armée des Indes. Donc ils savaient que ça existait, mais c'est la première fois qu'ils en voient. Et nous, forcément, on savait qu'il y avait des peuples, mais c'est la première fois qu'on les voit. Et donc c'est cette rencontre-là qui tout d'un coup est intéressante parce qu'eux nous découvrent, mais forcément, une fois qu'ils nous ont découvert, ils vont nous montrer leur vie. Et soudainement, on comprend comment ils vivent, ils nous prennent par la main, ils nous emmènent chez eux, dans leur monde à eux. Et c'est cette compréhension. Alors là, c'est une première étape. C'est un déclic qui me fait dire, mais en fait, faut arrêter de penser qu'on connaît tout sur tout. La notion scolaire, où on a le professeur qui nous dit, les choses sont comme ça, comme si, point barre, celle qu'on reçoit tous à un moment donné de notre éducation, elle est complètement à remettre en question parce qu'en réalité, il n'y a pas un domaine sur lequel on connaît tout. Donc là, je décide effectivement de changer de vie, je quitte mon travail, je quitte tout ce que je fais jusque-là, pour devenir explorateur et que mes voyages ne soient plus simplement des voyages de découverte générale où je suis heureux, moi, de me promener dans la nature, mais où je vais chercher à quêter cette même nature dans ce qu'elle a de plus riche à nous apprendre. Et donc je réapprends, j'ai envie, moi, plutôt que de me spécialiser sur un domaine très précis, ce qui m'a toujours un peu énervé, parce que oui, on a besoin de spécialistes, mais des fois, on se focalise tellement sur quelque chose qu'on oublie son contexte, d'essayer de comprendre comment les milieux interagissent entre eux, comment on peut s'y adapter. Donc, je vais dans tous les milieux, forêt tropicale, désert, grand champ glaciaire, mer, sous-marin, souterrain, pour essayer de comprendre comment tout ça interagit. Et au fur et à mesure de mes expéditions, je vais constater qu'il y a un domaine dans lequel on est, mais alors très, très loin de savoir grand chose, c'est le cerveau humain et sa capacité de s'adapter à son environnement et à tout ce qui lui arrive. Et donc je vais focaliser mes expéditions sur la capacité d'adaptation du cerveau aux systèmes complexes, à ceux qui sont déjà installés dans ces systèmes ou à ceux qui y arrivent et qui vont devoir se réadapter. Et donc essayer de comprendre comment tout simplement nous fonctionnons en termes humains par rapport à tous les environnements difficiles et extrêmes qui nous environnent.
Est-ce que le danger existe ou est-ce que c'est juste un état d'esprit, on se met en danger, est-ce qu'on peut...
Le danger, il est évident, il est là. Enfin, quand on va dans des montagnes, quand on va au milieu du désert parmi les plus chauds du monde, quand on va dans certains souterrains, voilà, le danger, il est présent. Cela dit, il faut relativiser cette notion-là pour deux raisons. Tout d'abord, ce n'est pas le danger qui caractérise l'exploration. Ce qui caractérise l'exploration, c'est d'aller dans des endroits où il reste encore des choses à découvrir et effectivement, ce faisant, il y a un certain nombre de risques parce qu'on va dans des endroits compliqués. Mais on n'a pas la recherche, en tout cas à mon niveau, je n'ai pas la recherche de me mettre en danger. Le côté extrême, le côté adrénaline, il existe, il fait partie du jeu, mais c'est qu'un véhicule qui me permet d'aller là où je veux être. Donc c'est pour ça que j'en parle assez peu souvent, c'est pas quelque chose qui définit l'exploration. Après, néanmoins, elle existe, il faut l'appréhender, il faut se préparer, donc ça demande une vraie formation. Enfin, je dis aussi attention à cette impression aujourd'hui que tout le monde peut aller partout, parce que c'est pas vrai, parce que ben, il faut apprendre à progresser, il faut accepter de partir dans des petites expéditions dans un premier temps, et puis de progresser pour pouvoir ensuite faire des choses de plus grande ampleur. Il faut vraiment accepter profondément d'écouter la nature dans laquelle on est. Et je crois que ça, c'est la clé de résistance au danger. Hein. C'est de ne pas penser qu'on est plus fort que cette nature, jamais. C'est de ne pas penser qu'on va pouvoir adapter la nature à nous, jamais. Mais que c'est elle qui nous dicte la conduite à avoir. Et que à chaque fois qu'on a un accident, en général, c'est parce qu'on a oublié d'écouter ce qui nous entourait. Quoi. Et ça peut arriver à tout le monde. Hein. Je dis ça, un jour, peut-être j'aurai moi-même un accident, je l'espère pas. Mais il n'y a personne qui est au-dessus de ça. Mais par contre, il faut vraiment rester en écoute totale du milieu dans lequel on est.
Fascinant aussi dans ce que tu racontes, c'est le fait qu'il y ait encore des endroits où l'homme n'a pas été, où des populations ne se sont pas encore rencontrées. Là, tu parlais du Népal, tout à l'ouest. Donc aujourd'hui encore, on peut arriver dans des endroits complètement fermés du monde.
Oui, il y en a de moins en moins, en tout cas sur la Terre, émergés, mais il y en a encore. Il y a encore des grandes zones de forêt tropicale, il y a encore des grandes zones glaciaires où on n'a pas été. Alors, c'est vrai que la découverte de nouvelles populations, je ne sais pas si c'est vraiment encore possible, mais en tout cas, la rencontre de populations qui se connaissent très mal, ça assurément. Et je pense que là-dessus, on a un vrai travail à faire, parce que je pense que le gros problème qu'on a aujourd'hui sur notre planète, c'est que les gens ne cherchent plus à se comprendre, mais cherchent d'abord à vouloir transformer les autres à leur image. comme on a tendance à faire avec la nature. Et je pense que l'explorateur aujourd'hui, il a un rôle à jouer aussi là-dedans. Parce que, alors évidemment, vous allez me dire, on va aller dans certains endroits, on sait bien qu'il y a des gens. Mais est-ce qu'on sait comment ils vivent? Est-ce qu'on a cherché à comprendre ce qu'ils étaient? Pas toujours. C'est peut-être ce qui différencie le journaliste de l'explorateur d'ailleurs. Parce qu'il y a des journalistes qui font un vrai travail aussi de fond, hein, qui vont quêter dans certains endroits. Mais la nécessité de leur travail, c'est un peu l'instantanéité. C'est-à-dire qu'on vient voir plutôt le moment présent et ce qui s'y passe. L'explorateur, et c'est pas pour les confronter, mais c'est juste deux visions différentes, il va plutôt chercher à être à très long terme, une année, 2 ans, 10 ans, et de voir évoluer des situations pour pouvoir mieux comprendre ce qu'elles sont dans leur globalité et non pas dans leur instantanéité. Donc on est complémentaires, comme on est complémentaires avec l'aventurier qui lui va aussi chercher à comprendre ce qu'il est lui-même par rapport à ce système. Donc il faut que tous ces personnes qui voyagent acceptent que chacun a une importance à un moment donné, mais ne jamais négliger ce que les autres sont aussi, quoi.
Et de tes explorations, qu'est-ce que tu ramènes? Des documentaires, vidéos, sonores, photos?
Je ramène beaucoup d'écrits, d'abord. Des photos, oui. Des documentaires, un peu, mais pas beaucoup. Parce que la plupart du temps, alors au début, on est comme tout le monde, on doit vivre. Donc on se dit que il faut tout faire. Et puis on veut tous tout faire. Donc on veut faire des documentaires, des livres, des films, des études scientifiques, l'expédition. Enfin voilà. Et à un moment donné, on réalise que on fait tout mal parce qu'on peut pas tout faire de toute façon. Donc j'ai décidé d'un peu inverser les choses. Aujourd'hui, je fais des expéditions qui sont des expéditions de recherche, de quête scientifique, dans lesquelles je n'ai pas de prétention de faire des films. Et ensuite, lorsque je trouve des sujets qui me paraissent importants, je vais revenir sur ces terrains pour faire un film. Et du coup, en focalisant sur le film. Donc les films que je fais, ils sont toujours réels par rapport aux expéditions que j'ai faites, mais ils ne sont pas forcément toujours tournés durant l'expédition en tant que telle, parce qu'encore une fois, il faut se méfier de vouloir toujours tout faire. On peut faire un très beau film de voyage, de progression, d'aventure exploratoire, mais si on veut vraiment raconter un milieu, des humains, il faut du temps. Et ce temps, il faut le consacrer que pour faire un film. Donc voilà, je dissocie mes expéditions, mais oui, j'essaye. L'explorateur, il a un rôle fondamental, au-delà de tout, c'est la transmission. Si l'explorateur ne transmet pas, il n'est pas un explorateur, il est un aventurier, il n'a rien à faire avancer. Donc mon rôle, c'est vraiment d'essayer de transmettre au travers de films, de livres, de conférences, mais en cherchant à avoir la meilleure acuité possible pour chacun de ces domaines.
Donc tu retournes quelquefois des endroits que tu as découverts pour y passer plus de temps, mieux comprendre cet environnement humain ou naturel et vraiment pouvoir transmettre quelque chose après.
Voilà, je retourne. C'est très rare que je n'aille qu'une fois dans un endroit. Généralement, il y a une première expédition qui est l'expédition, j'allais dire, exploratoire, où j'ai tout à découvrir, où tout est nouveau, où je me plonge dans un milieu, dans un univers, dans un questionnement et je reçois tout. Un peu de manière parfois... Alors il y a une grosse préparation sur mes expéditions, hein, c'est souvent 2 ans de préparation préalable et autres, mais néanmoins, je me laisse un vrai espace de me laisser entraîner dans le milieu dans lequel je suis en train d'évoluer. Et puis petit à petit, pour aussi éviter d'y aller avec trop de préjugés, éviter de m'être déjà fait une idée forte et finalement de n'être plus capable de me laisser emporter par les choses. Et puis une fois que j'ai fait ce premier travail, qui va durer quelques mois, 4, 5, 6 mois, je reviens en France ou en Suisse, en Europe, où je vais essayer d'analyser tout ce qui s'est passé, de voir les éléments les plus importants et retourner alors pour me focaliser sur certains sujets plus précis et ou éventuellement faire un film ou écrire un livre.
Là, l'émission s'appelle Regarde ailleurs. C'est l'émission radio qu'on est en train d'enregistrer ensemble avec toi, Christian Clos. J'aimerais que tu nous emmènes, nous auditeurs, à la découverte d'un endroit, d'un milieu que tu as particulièrement aimé ou que tu as particulièrement envie de partager avec nous lors d'une de tes explorations, peut-être un peuple, peut-être un endroit, enfin je sais pas. Emmène-nous quelque part.
Je vous emmène dans un endroit qui est pas forcément facile à atteindre, donc qui malheureusement peut-être sera réservé à quelques personnes, mais si vous avez l'occasion d'y aller, tentez le coup. C'est, vous descendez l'Amérique du Sud de plus en plus bas, vous arrivez en Patagonie, vous continuez à descendre, vous arrivez au détroit de Magellan, vous traversez le détroit de Magellan, vous arrivez en Terre de Feu, vous continuez à descendre la Terre de Feu. Vous arrivez dans un autre petit canal qui s'appelle le canal Almirantazgo que vous traversez et là vous arrivez dans un endroit qui est une presqu'île, inaccessible quasiment que par bateau. Souvent entouré de nuages, 300-350 jours par an, on ne voit pas au-delà de quelques centaines de mètres tellement les nuages sont présents, les vents sont omniprésents, on est juste à côté du Cap Horn. Tout paraît terrifiant, tout paraît extrême, les vagues sont plus hautes qu'ailleurs, les vents sont plus puissants qu'ailleurs, les tourbillons. Et puis un jour, vous avez une tempête gigantesque et à la fin de cette tempête, vous avez tous les nuages qui ont été balayés. Vous n'avez plus que le ciel bleu. Vous voyez une chaîne de montagnes qui se dresse devant vous, splendide, unique, que très peu de monde ont eu l'occasion de voir, même s'ils ont été sur place parce que souvent, on est dans les nuages. Et là, vous réalisez que vous avez une chaîne de montagnes qui est encore pratiquement inconnue. C'est le cas quand je suis arrivé en 2002, la première fois, dans cet endroit qui s'appelle la Cordillère de Darwin. Et là, je rentre dans ce milieu et vous entrez dans un milieu... Vous avez l'impression de retrouver les origines du monde, tellement les choses sont encore en création, en devenir. Les tempêtes sont omniprésentes, la météo est sans doute la plus complexe du globe, en tout cas c'est ce que les météorologues pensent. Tout bouge très vite, tout change très vite, les crevasses s'ouvrent et se ferment dans la même journée, les crêtes se transforment, vous couchez le soir à côté d'une concrétion, vous vous réveillez le lendemain, elle a changé, elle s'est transformée. Donc vous êtes dans un monde de transformation, de changement, très très difficile effectivement à vivre, parce que vous savez jamais ce qui va se passer, dans l'heure qui suit tout peut avoir changé. Mais aussi, vous avez l'impression d'être, de faire partie des origines du monde et de sa création, de ce Big Bang inimaginable où la nature se forme devant vos yeux. Et vous comprenez alors, et c'est vraiment l'endroit où j'ai compris ça, comment se sont formées nos montagnes, nos vallées, nos lieux de vie. Et cette perte de référence à tout ce qui est humain pour rentrer dans une référence totale d'une nature en fondation, en transformation, c'est l'endroit qui m'a le plus touché au monde. C'est aussi l'endroit où j'ai vécu le plus de difficultés, c'est vrai, mais ça, c'est un endroit qui a été d'une telle richesse que je pense que dans mon parcours exploratoire, ça restera toujours le lieu où j'ai compris que la nature, quoi qu'on fasse et quelle que soit notre manière de vouloir la transformer, aura toujours le dessus et qu'on peut penser qu'on arrivera à maîtriser ou à transformer cette nature, voire même à aujourd'hui la protéger puisqu'on veut la protéger, mais qu'en réalité... c'est bien elle qui se protégera et que nous, humains, nous ne sommes que des passants. Et que si nous ne faisons pas attention, c'est pas tant la nature qui disparaîtra que nous, protégeons-nous. Quoi.
Et dans cet endroit, il y a des hommes qui y vivent ?
Non, il n'y a réellement personne. Et on peut penser même que personne n'y a jamais vécu. C'est donc une chaîne de montagnes entourée de mer, de canaux. Dans ces canaux vivaient des Indiens, des peuples, les Kaweska, les Yamana, qui vivaient dans des canaux. Mais pour qui ces montagnes étaient le domaine des dieux. Il y a des légendes par rapport à ça, donc on peut imaginer qu'eux n'ont jamais cherché à monter dans ces montagnes parce que c'est rare qu'on aille défier les dieux sur leur territoire. Ensuite, les explorations qui se sont succédées ont peu été dans ces montagnes parce que trop difficile d'accès. Et finalement, ce n'est que très récemment dans l'histoire de la découverte de la Patagonie et de l'Amérique du Sud en général qu'on a commencé à s'intéresser à ces montagnes, d'où le fait que ça restait encore un endroit très peu exploré. Pour la petite histoire, moi je suis rentré dans la partie centrale pour la première fois en 2006 et c'était sans doute le premier humain à y rentrer. Le GMHM de Chamonix a fait la première traversée de ces montagnes il y a seulement 2 ans, donc on est encore vraiment dans un endroit où tout est en devenir et il reste encore des tas de choses à y faire. C'est vrai que l'humain n'est pas présent, mais c'est pas forcément très important parce que c'est le milieu qui nous parle. Et que quand on y va, on retrouve comment l'humain peut progresser pour arriver dans des endroits aussi extrêmes.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
voilà, il y a eu trois transmissions. La première, ça a été un livre grand public, j'allais dire, qui s'appelle Ultima Cordillera, La dernière terre inconnue, aux éditions Artaud. Il y a eu un film qui a été fait. Et puis après, il y a pas mal de publications diverses et variées, scientifiques, sur des domaines précis dans ces montagnes, qui sont peut-être accessibles plus à un public très intéressé par des aspects techniques, mais qui sont néanmoins la compréhension de ces montagnes. Et ce qui est intéressant avec l'exploration, c'est qu'à chaque fois, on pense avoir fait un pas de plus, puis on constate que derrière ce pas, il y en a un nouveau à faire et qu'on pourra continuer encore très longtemps à essayer de comprendre. Donc, je continue à travailler sur ces lieux, sur la Patagonie. Je travaille sur dans des zones d'Afrique de l'Est, dans des zones d'Asie centrale. Voilà, c'est des endroits assez particuliers qui, chaque fois qu'on pense être arrivé au bout d'une quête, on en découvre une nouvelle.
Donc, explorateur, c'est un métier.
C'est un métier, réellement, un métier de passion d'abord, sur lequel il faut accepter toutes les contraintes qui vont avec, mais finalement ces contraintes sont bien faibles au regard du bonheur qu'on a de pouvoir pénétrer des zones encore peu ou pas connues, et surtout d'accepter d'y recevoir toute la transmission que peuvent nous apporter ces secteurs. Donc oui, c'est un métier pour lequel il faut se préparer, pour lequel il faut travailler beaucoup, se protéger donc en apprenant vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir pénétrer ces milieux un peu compliqués. Mais quand on entre petit à petit dans ce métier, on n'a plus envie d'en faire un autre.
Je m'intéressais un peu quand même au nerf de la guerre, l'argent, l'économie. Comment est-ce qu'on va faire financer son expédition ? Si maintenant, demain, tu as, je sais pas, un projet, par exemple, d'aller dans une terre encore inconnue, comment ça va fonctionner ?
Je dirais, le nerf de la guerre, il est comme pour tout le monde. Il faut trouver l'argent là où il est. Donc, ce sera souvent des partenaires, des sponsors dans un premier temps. C'est aussi par la diffusion d'informations, enfin de livres, de films qui peuvent financer un peu, de conférences, mais ça c'est une petite partie. Mais ce qui est certain, c'est que de penser que la première fois qu'on veut partir, on trouvera le financement, c'est souvent faux. Il faut accepter de partir d'abord pour soi, de prouver ce qu'on sait faire, de chercher une expédition qui est à taille humaine, donc à taille finançable, par les quelques sous qu'on peut réunir. Pour la petite histoire, première expédition au Népal, 6 mois à 2 à pied, c'est 1 800 euros, reporté en euros, tout compris, billets d'avion compris. Donc voilà, c'est des sommes qu'on peut réunir si on décide de le faire. Donc c'est d'abord une décision, c'est d'abord une volonté d'accepter de tout perdre, parce qu'il faut accepter de quitter son emploi, sa maison, tout ce qu'on a pour partir, on met tout dedans. Et généralement, quand on le fait, on constate qu'au retour, on a bien plus de facilité à faire les choses parce qu'on a appris que tout simplement tout était adaptable, tout était malléable, et que si nous on est malléable dans ce système, on arrivera toujours à trouver une solution. Donc le financement, en fait, c'est souvent un problème que les gens nous posent, mais en réalité ça n'en est pas un si tant est qu'on soit prêt à accepter de vivre des choses sans forcément toujours avoir tout préparé, quoi. Après, pour les grosses expéditions, bah oui, il va falloir des partenaires, mais c'est toujours plus facile de trouver des partenaires quand on a montré qu'on pouvait faire des choses que quand on n'a rien prouvé. Donc voilà, il faut accepter de passer par cette évolution, de faire soi-même, puis ensuite de financer. Et aujourd'hui, j'ai vraiment deux types d'expéditions. J'ai des grosses expéditions très chères où je vais passer par des partenaires. Alors là, c'est vrai que c'est très long à trouver. C'est souvent 80% du temps de la préparation d'une expédition. Parce qu'aujourd'hui, et je trouve pas ça anormal, hein, les partenaires, ils sont pas là pour nous donner de l'argent comme ça, pour s'amuser, quoi. Il y a souvent un besoin de retour, un questionnement sur une quête. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu vas chercher? Qu'est-ce que ça va nous rapporter à nous qui donnons de l'argent? C'est-à-dire que le mécénat, c'est un peu fini. Mais voilà, c'est cette contrainte-là, on l'accepte. Moi, j'ai entendu toujours des gens dire « c'est plus dur aujourd'hui qu'avant ». Que ces gens lisent un peu les parcours des grands explorateurs, des Magellan, des Colomb et autres, pour réaliser que je pense que c'est vraiment faux, que ça a toujours été difficile. Parce qu'encore une fois, on part pour aller chercher quelque chose qu'on ne peut pas encore expliquer. Et ça, pour un financeur, c'est forcément compliqué. Donc, il faut trouver des manières de lui expliquer que ça pourra lui apporter quelque chose, mais qu'il ne sait pas encore quoi. Donc, c'est intéressant comme rapport. Mais il y a toujours eu des financeurs, il y en aura toujours. Il y aura toujours eu des gens pour partir explorer, il y en aura toujours.
Merci à toi, Christian.
Merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.